7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Florelle Manda.
Bonjour et bienvenue dans votre émission 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons du fait d'être parent et plus précisément du sentiment de réussir ou pas l'éducation de ses enfants. Selon une enquête réalisée par la Fondation de la Famille et Ipsos en 2011, 74% des Français estiment qu'il est plus difficile d'élever ses enfants qu'il y a 20 ans. 4 parents sur 10 ont même le sentiment que c'est beaucoup plus difficile. Pourtant, 70% considèrent que les enfants aujourd'hui sont plutôt épanouis dans leur famille. 75% qu'ils ont une bonne complicité avec leurs enfants, 73% qu'ils peuvent se construire correctement et 68% développer leur estime de soi. Néanmoins, un sentiment d'incompétence ou d'illégitimité subsiste. Les interrogations des parents sont de plus en plus nombreuses, bien qu'ils aient aujourd'hui à disposition une multitude de savoirs scientifiques ou non sur l'éducation. Alors comment s'épanouir dans sa famille et entretenir de bonnes relations avec ses enfants? Nous allons en parler ce matin avec nos invités. Raphaël Milkovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, thérapeute familial, auteur de Parenting. Le parent aussi est une personne aux éditions Odile Jacob. Également avec nous en studio, François Poisson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychopédagogue, ancien directeur d'établissement scolaire. Vous êtes le co-auteur aussi de cet ouvrage, Parenting. Le parent aussi est une personne. Merci d'être avec nous ce matin. Puis en fin d'émission, nous écouterons le reportage de notre journaliste Alice Milo sur les classes passerelles au Niger. Et quant à vous, les voisins, si vous êtes parents ou si vous êtes sur le point de le devenir, faites-nous part de vos questionnements sur l'éducation de vos enfants, si vous en avez assez que l'on vous dicte la marche à suivre avec vos enfants sans que l'on ne tienne compte de ce que vous êtes et de ce que vous vivez. On vous attend au 33 1 84 22 61 71 sur WhatsApp aussi avec vos messages écrits, c'est le même numéro. Suivez-nous également en direct sur Facebook et sur Twitter.
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Avant même la naissance d'un enfant, les parents sont assaillis de préceptes, de recommandations et même d'interdits qui les contraignent dans leur manière d'être et qui ne tiennent pas compte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. Tels des robots, ils sont censés appliquer un programme de bonne éducation dont les vertus seraient universelles. Ça, ce sont les premiers mots d'introduction de votre ouvrage, Parenting. Le parent aussi est une personne que vous avez coécrit tous les deux. Un livre qui propose comme ça un autre chemin vers la parentalité et une éducation consciente et réfléchie, adaptée à chaque parent et le libérant de toutes les pressions qui pèsent sur lui et l'entrave dans son travail éducatif. On reviendra évidemment un petit peu plus tard dans l'émission sur ce que vous préconisez, sur ce que vous proposez, parce que ça peut être des clés pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin. D'ici là, comment peut-on expliquer que les parents aujourd'hui, en 2019, estiment plus difficile d'élever un enfant qu'il y a 20 ans, Raphaël Milkovitch?
Ben, disons que depuis quelques décennies déjà, la place de l'enfant a pris de l'importance. Et autant avant, on considérait que c'était aux enfants de s'adapter et voilà, l'enfant était pas du tout considéré de la manière qu'aujourd'hui. Autant maintenant, l'enfant est vraiment au cœur des préoccupations et on se soucie beaucoup de son bien-être. Ce qui fait qu'on lui donne la parole beaucoup plus qu'auparavant. Et voilà, donc du coup, ça brouille un petit peu les rôles de chacun qui décide finalement, parce que dans le temps, c'était les parents clairement qui décidaient. Aujourd'hui, c'est moins clair. Donc je pense que...
C'est quelque chose que vous abordez d'ailleurs dans votre livre, dont on va reparler plus précisément. François Poisson, vous voulez rajouter quelque chose ?
Juste qu'effectivement, c'est un fait de société, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que la société moderne, avec justement l'apparition de la classe moyenne, qui est la classe la plus importante aujourd'hui, fait que, effectivement, tout ce qui est modèles sociaux évolue, tous les modèles sociaux évoluent, et la place de l'enfant avec. Mm-hmm. Donc, effectivement, là, on voit par rapport aux droits de l'enfant, etc., donc plein de choses qui évoluent en positif. Mais effectivement, le revers de la médaille, un petit peu, c'est justement quelle est la place réelle de l'enfant aujourd'hui? Est-ce qu'il a un droit de décision? Pourquoi? Comment il se positionne par rapport à certaines choses importantes dans la famille? Bon, ça peut poser parfois certains problèmes, mais en tout cas, c'est une vraie question.
Oui, du coup, on a l'impression que les parents aujourd'hui sont perdus, alors qu'il existe quand même pas mal d'aide, ou plus d'aide qu'auparavant, comme votre ouvrage par exemple, ou des forums. Comment ça se fait?
Bah, disons qu'il y a, après, je ne sais pas si les messages vont tous dans la même direction.
Il y a peut-être beaucoup de messages aussi.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de messages. Et puis, beaucoup de messages donc, qui sont vraiment centrés sur le bien-être de l'enfant et peut-être pas beaucoup ou pas suffisamment sur celui des parents. Mmh. Et sur l'expérience et la connaissance que les parents et que l'enfant n'ont pas, et du coup pourquoi ce serait, ils auraient peut-être un rôle premier à avoir dans l'éducation de l'enfant, et que c'est pas juste l'écoute de l'enfant qui doit primer dans les décisions qui sont prises le concernant.
Oui, François Poisson.
Bah, en fait, oui, je dirais exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire que le questionnement des parents, aujourd'hui, il est là, il est clair, et il y a énormément d'informations, et en particulier des informations qui sont, un petit peu des choses préfabriquées. On leur propose des solutions un petit peu préfabriquées qui ne correspondent pas forcément à la situation qu'ils vivent et qui ne sont pas forcément applicables de façon durable. Mmh. Et du coup, ça pose à nouveau un questionnement aux parents en disant « mais je n'arrive pas à appliquer, effectivement, forcément ces recettes, je suis un mauvais parent ou c'est, enfin voilà, ouais. Ça pose un nouveau questionnement qui n'aura pas lieu d'être effectivement si ces préceptes-là n'avaient pas été indiqués aux parents.
Mmh. On a le sentiment aussi que il rencontre pas mal de difficultés. Quelle est pour vous, à votre avis, la difficulté principale, si vous deviez nous en donner une chacun?
Bah, comme vous le disiez un peu en introduction, c'est le sentiment d'être légitime dans leur rôle de parents. Est-ce que ils ont le droit de décider des choses qui aillent un peu à l'encontre de ce que souhaite l'enfant? Donc je pense que c'est peut-être ça la plus grande difficulté aujourd'hui.
Oui.
Parce que cette prise en compte de l'enfant a pris tellement de place que
elle perturbe.
Voilà.
C'est ça.
Ouais. Mmh. Oui, ça, c'est un petit peu l'idée. Mon enfant, la façon dont je l'élève, est-ce que je dois créer de la frustration ou pas chez lui? Parce qu'effectivement, les demandes de l'enfant ne correspondent pas forcément effectivement, à ses besoins ou aux demandes du parent. Et donc, comment je fais pour gérer justement ces besoins, ces demandes à mon enfant en le frustrant ou sans le frustrer? Enfin, c'est compliqué, dans quelle mesure.
Est-ce que ce sont justement des raisons pour lesquelles on vous consulte principalement l'un et l'autre?
Oui, c'est des parents qui sont démunis et qui ont l'impression d'avoir tout essayé et sans réussir à diriger l'enfant vers là où il voudrait qu'il aille.
Ah ouais.
Donc oui, c'est un peu un sentiment de, enfin, quand ils arrivent vers nous, c'est vraiment quand ils sont arrivés à un sentiment d'incompétence un peu accentué qu'ils ont un sentiment de ne plus y arriver, d'avoir besoin d'aide.
Alors nous allons continuer la discussion avec des auditeurs. Nous sommes en ligne avec Dimo de Libreville qui a une petite fille de 12 ans. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous dites que vous résistez pas mal aux injonctions liées à l'éducation de votre fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu?
Bon, j'ai un exemple palpable. Par exemple, tous les matins, je l'accompagne prendre le bus.
Elle a 12 ans, votre fille?
Oui, elle a 12 ans.
Oui, allez-y.
Et je subis un peu, comme vous dites, les injonctions de mon entourage, c'est-à-dire les voisins, les habitants de quartier qui disent qu'elle est trop grande, elle peut se débrouiller toute seule, elle peut prendre le bus toute seule. Oui. Et moi, je réponds par la négative en disant non.
Oui. Et en revanche, vous avez ajouté aussi dans votre témoignage que quand votre mère, à vous, vous dit quelque chose, par contre là, vous réfléchissez, ça vous...
Oui, je réfléchis parce qu'on habite ensemble, donc j'estime qu'elle est bien placée pour me donner une orientation ou un conseil.
D'accord. Et vous êtes en couple, Dimo, ou vous élevez votre fille seule, en plus de votre maman?
Mère célibataire avec mes parents.
D'accord. Et vous pensez que parce que vous êtes une mère célibataire, peut-être c'est aussi cela qui fait qu'on vous pose des questions, on remette en question, entre guillemets, l'éducation de votre fille?
Non, je ne dirais pas cela.
D'accord. Une réaction l'un et l'autre sur ce que vient de nous expliquer?
C'est vrai que c'est compliqué pour les parents de faire les choses à leur idée. en fonction de ce qu'ils sentent, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des injonctions qui viennent de toutes parts, qui peuvent être de ses propres parents, des autres parents, d'autres enfants. Voilà, donc c'est vrai que c'est parfois difficile aussi pour, je pense que c'est aussi un des facteurs qui peut faire que c'est difficile pour le parent de se repérer dans ce qu'il doit faire, c'est que il y a ce qu'il serait spontanément enclin à faire et il y a ce qu'on lui dit qu'il devrait faire qui est pas forcément enfin qui ne concorde pas forcément.
Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Ceci dit, cette dame, je trouve que quand elle dit que elle en parle à sa mère, c'est bien aussi de pouvoir parler des choses, de pouvoir parler de l'éducation de ses enfants, et puis justement d'en réfléchir après, par rapport à ce qu'on a dit. Donc effectivement, elle a conscience effectivement de ces injonctions qui sont présentes. Elle n'a pas envie de faire comme on lui dit. Elle fait comme elle a envie de faire. Si elle pense que c'est mieux pour son enfant, voilà, c'est très bien. Et qu'elle en parle avec sa mère aussi, c'est très bien. Je trouve que échanger justement sur les choses, c'est parfait.
Merci beaucoup, Dimo, pour votre témoignage. On continue avec Jelika, qui est à Brazzaville. Elle est célibataire également. Elle a 4 enfants, 4 garçons de 8, 7, 5 et 1 non, bonjour Angelica.
Bonjour.
Alors vous avez souvent des remarques ou des reproches sur votre façon d'élever vos enfants. Racontez-nous un peu.
Alors souvent c'est par rapport à la façon dont les enfants évoluent, mais c'est juste que en fait, ce n'est plus vraiment des reproches, mais ils regardent et sont parfois en admiration. Parce que mes enfants, c'est vrai que je les élève seuls, en fait, c'est par avec le père de mes enfants. Et la façon dont on voit comment je veux dire, comment les enfants sont à cet âge, c'est vrai qu'à cet âge-là, généralement, les enfants sont assez turbulents, ils sont très actifs. Et savoir que les enfants ont certaines valeurs, du genre, par exemple, quand on dit, quand ils veulent demander quelque chose, ils disent « s'il te plaît ». Quand ils ont fait quelque chose de mal, quand ils se bagarrent, eux, ils disent pardon.
Mais ça n'a pas toujours été comme ça, Jelika.
Non, c'était pas comme ça au début. Parce qu'avec leur père qui s'imposait, c'était assez difficile. Donc, il fallait que je m'impose moi aussi. Et quand on s'est séparés, c'est encore devenu meilleur.
Le papa qui vous trouvait trop laxiste, d'ailleurs, c'est ça?
Le papa me trouvait laxiste et il me reprochait d'être trop large avec eux. Et tandis que moi, je voulais qu'il soit un peu plus rigoureux. Il me trouvait parfois trop dur, parfois trop laxiste. Et lui, il était un peu genre imposant, mais de façon un peu subtile.
D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous êtes considéré comme un modèle. On vous voit, c'est ça?
Un modèle, que ce soit parfois à mes collègues, que ce soit par rapport aux autres parents à l'école de mes enfants. Qui me voient, ils disent « Ah mais tiens, comment elle fait, 4 enfants, mais elle est toujours là, que ce soit au sport, elle est toujours là. »
Et donc vous avez...
À la maison est ordonnée, mais comment elle fait? Je dis « Il suffit de parler avec les enfants, c'est vrai qu'on doit être dur, mais pas trop dur aussi. » Donc c'est ça, moi je veux que les enfants aient une bonne éducation, c'est que j'ai été élevée par ma grand-mère, mon père, et ça m'a réussi, et je veux que les enfants transmettent la même chose. Du coup, mes enfants sont aussi un modèle par rapport à mes collègues qui me disent parfois « Ah, Jelika, moi aussi, je crois que je vais envoyer mes enfants passer un stage chez toi, parce que d'autres moments que d'eux, mais ils trouvent ça tellement difficile, mais quand je dis que moi j'en ai 4, et comment est-ce qu'ils sont un peu réglés comme l'horloge, ils sont étonnés. »
Merci Jelika pour votre témoignage du moment que vos enfants et vous-même êtes épanouis. C'est l'essentiel. On va continuer avec Anne de Douala. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Vous avez 2 enfants de 13 et 19 mois. Vous êtes maman aussi célibataire. Et votre famille, vos amis vous donnent des conseils. Surtout, effectivement, par rapport à l'écart d'âge entre vos 2 enfants. On vous dit souvent de ne pas gronder la petite, de la taper également. Il faut la laisser faire des bêtises parce que c'est un bébé. Racontez-nous un petit peu, Anne.
Oui, alors c'est super compliqué parce que justement j'ai l'influence de tout le monde, ma mère qui est grand-mère, donc elle joue son rôle, et puis mes amis qui me disent non, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut faire ceci, il faut faire cela, ne fais pas ça, ne sois pas trop dure, sois pas exigeante et tout ça. Et moi, ce que je fais, c'est que parfois, je culpabilise, mais des fois, il faut que je reste cohérente avec l'éducation que j'ai reçue et puis ce que j'estime bien pour mon enfant. Donc c'est très difficile à vivre parce que des fois on doit jongler entre la vie professionnelle, la vie personnelle, et puis gérer, éduquer les enfants toute seule, c'est pas facile du tout.
Mmh. Mais qui vous fait le plus de reproches? Votre famille, c'est ça? Vos amis?
Oui, ma famille, ma mère, ma grand-mère.
Et pourtant, vous essayez de reproduire l'éducation qu'on vous a inculquée?
Tout à fait. J'ai juste l'impression que quand on devient grand-mère ou arrière-grand-mère, on devient amnésique. Parce que cette éducation, je la dois à ma mère.
Ouais.
Il faut que je dise à ma fille, c'est comme ça qu'on se comporte, c'est ce qu'on fait. Et voilà, c'est ça qui fera d'elle un enfant exemplaire demain ou après-demain.
Ouais.
Et moi, ça m'a réussi, en fait. Donc, du coup, je comprends pas.
François Poisson, un mot sur ce que vous venez d'entendre?
Alors, enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Après, il y a effectivement le problème de génération qu'on retrouve ici entre les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Donc, même si on tend à reproduire un peu l'éducation de ses parents, il y a de toute façon un écart de sociétal qui fait que c'est pas si facile que ça.
Mais c'est ce que font les gens en général, reproduire ce qu'ils ont vécu finalement.
De toute façon, oui, il y a une espèce de reproduction. Maintenant, c'est pas l'identique. Les enfants vivent des choses différentes, la société n'est pas la même. Effectivement, les parents, ils sont soumis à la critique de leur entourage, de la famille, parce que tout le monde pense avoir son mot à dire sur l'éducation. Tout le monde est spécialiste dans l'éducation, oui. Parce qu'on a plus ou moins élevé des enfants, et donc on se pense être spécialiste et avoir la bonne parole concernant l'éducation.
Mais avant, on a le sentiment qu'avant, on écoutait ou on entendait, parce que j'imagine qu'on a toujours reçu des conseils de grand-mère, etc.
Oui, oui, oui.
Et on les écoutait plus ou pas, peut-être ça a changé aujourd'hui, c'est différent, Raphaël Mikovitch?
Ben, peut-être que ça s'est élargi en dehors de la famille, c'est-à-dire que maintenant, avant peut-être c'était une affaire familiale, justement, ce qu'on transmettait concernant l'éducation, et qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, il y a plein de livres, d'émissions sur le sujet, et du coup, chacun a son idée, et peut-être que, du coup, comme le disait madame, c'est vrai que pour rester cohérent avec soi-même, avec ce en quoi on croit, ça devient plus compliqué, parce qu'il n'y a plus juste cette fait ce qu'on m'a transmis et que j'ai envie de transmettre de mon côté, peut-être en mettant à jour effectivement, en tenant compte des différences sociétales qui existent aujourd'hui par rapport à l'époque. Mais il y a tout l'entourage en dehors de la famille qui a vécu d'autres choses, qui a d'autres convictions, qui peuvent tout aussi bien se défendre, parce qu'il y a ça aussi, c'est que il y a presque un côté rationnel dans l'éducation qui ne fonctionne pas, parce que c'est important que le parent croie à ce qu'il fait, et si lui-même n'est pas convaincu d'un mode éducatif, même si celui-ci en lui-même est très justifié, ça peut ne pas fonctionner.
Mmh. Peut-être l'une des clés dans ce que vous dites. On va continuer avec Abbas, qui est à Abidjan. Bonjour Abbas.
Oui, bonjour.
Ah, vous avez une fille de 5 ans, un garçon de 11 ans, et vous nous avez expliqué que vous avez fait des reproches à votre fils parce qu'il dansait en même temps qu'il mangeait. Dites-nous en plus.
Oui, c'était hier matin.
Oui.
Et il était en train de manger en même temps, il a commencé à danser.
Oui.
Et je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il s'est tué, d'un coup, il s'est tué, sans aucun mot.
Mm-hmm.
Et après, je me suis rendu compte, il ne fallait pas lui dire ça, parce que c'est son âge, et il faisait rien de mal, quoi.
Vous avez culpabilisé, c'est ça?
Oui.
Mm-hmm.
Après, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, il ne fallait pas que je dise ça, ce n'est pas grave.
Oui.
D'un coup, il s'est tué aussi, sans dire aucun mot. Et je me suis dit, après, il ne fallait pas, ce n'était pas normal de ma part, c'est vrai, c'est mon enfant, il faut que je le prenne aussi comme un ami à moi.
D'accord, il faut que vous le considériez comme un ami à vous, c'est ça que vous dites?
Oui.
D'accord. Oui.
Alors, ouais, un ami, c'est censé être un adulte. Donc, mais je pense qu'effectivement, ce que vous voulez dire, c'est par rapport à de la bienveillance. En fait, il faut être bienveillant par rapport à l'enfant, ça c'est évident. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut vous poser comme question, c'est le fait que votre enfant danse en mangeant. Est-ce que vous, ça vous pose un problème ou pas? En fait, si pour vous-même, en fait, ça ne pose aucun problème, y a pas de souci. L'enfant peut danser en mangeant. C'est pas ça qui changera fondamentalement l'éducation que vous lui donnez et les valeurs que vous allez lui apporter. Hein.
Mais alors, la réaction d'Abbas et même tout à l'heure aussi, Anna, est-ce que, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, je n'irai pas jusque-là, mais qu'est-ce que vous en pensez de la manière dont ils ont réagi finalement?
Bah, je pense que s'il a réagi comme ça, c'est que par rapport justement à ses repères, ça avait du sens de réagir de cette manière-là. Donc après, peut-être que justement, ce papa était un peu déboussolé par rapport à la bonne réaction à avoir. Voilà, je pense que c'est très bien de se poser des questions sur est-ce qu'on fait bien, toujours remettre en question sa façon de faire en tant que parent. Après, il ne faut pas non plus dramatiser une situation isolée, un cas isolé. Voilà, même si un parent n'a pas forcément fait le bon choix à un moment donné, voilà, c'est
bien
pas
de
forcément...
relativiser aussi des fois, dédramatiser.
C'est pas forcément très grave.
7 milliards de voisins aujourd'hui, comme tous les vendredis, nous parlons éducation, du dur métier d'être parent. Nous sommes avec François Poisson et Raphaël Milkovitch. On en reparlera dans quelques instants de tout cela. Pour le moment, nous écoutons Crazy, Lambiste et Pongo pour Work.
Every night, you're haunting my night.
You're haunting my night.
I'll work if I have to, work if I have to.
I'll work if I have to.
You're haunting my night. Every night, you're haunting my night.
You're haunting my night.
And I'll work if I have to, work if I have to.
Yeah.
You're haunting my night. Every night, you're haunting my night.
You're haunting my night.
I'll work if I have to.
Si vous nous rejoignez dans votre émission 7 milliards de voisins, comme tous les vendredis, nous parlons éducation. Avec nos invités, nous discutons de ce sentiment d'incompétence que les parents peuvent connaître et surtout des injonctions des uns et des autres, bien souvent de la famille, sur l'éducation de nos enfants. 33 1 84 22 61 71. Appelez-nous si vous souhaitez vous aussi partager vos expériences et sur WhatsApp aussi avec des messages écrits, c'est le même numéro. Alors nous sommes avec Hubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Helsinki, en Finlande. Vous êtes marié avec une Finlandaise. L'éducation est très différente ici de ce que vous connaissez. Vous êtes de quelle origine ?
Je suis originaire de la RDC.
De la RDC. Et donc, vous avez un souci parce que vous ne savez pas comment faire avec vos enfants. Expliquez-nous, Hubert.
Oui, en fait, moi, j'ai deux enfants. Le grand, il a 6 ans et le petit, il a 3 ans. Mais j'ai comme les sentiments d'incompétence, parce que je vois que chaque jour ça devient de plus en plus difficile. Et tout ça, c'est parce que je pense que je ne peux pas arriver à parler à mes enfants comme mes parents me parlaient. Mm-hmm. Et je n'ai pas les mêmes langages aussi avec leur maman, parce que. Et maintenant, actuellement, elle comprend qu'il y a des choses qui ne vont pas. Elle est consciente de ça elle-même. Mais avant, elle n'avait pas conscience de ça, donc on avait beaucoup de problèmes. Et. Ma façon de parler aux enfants et sa façon de parler aux enfants, ce n'était pas les mêmes.
Vous voulez dire que...
Actuellement...
Oui, votre éducation, ce que vous voulez inculquer à vos enfants, oui, ne sont pas tout à fait pareils. Par rapport à quoi ? Par rapport à une éducation peut-être plus africaine ? Par rapport à... Est-ce que...
Je ne peux pas dire trop par rapport à l'éducation très africaine, parce que moi, je n'ai pas aussi été éduqué avec l'éducation africaine seulement.
D'accord.
J'ai été un peu partout. Mais ce que je trouve ici, c'est que l'enfant, il est un peu comme un adulte lui-même. Il fait ce qu'il veut. Et moi, l'adulte, je n'ai plus ma place, parce que ma place, c'est comme si c'était de regarder seulement l'enfant et de le dire, et de l'aider pour ne pas tomber. Mais je n'ai pas l'autorité de dire à l'enfant dans la vie, ça, ne fait pas ça. Parce qu'on m'a dit qu'il va apprendre lui-même.
Mmh.
Et la vie, il voit chaque jour, on dit qu'il va apprendre. Mais moi, je ne pense pas que c'est ça.
D'accord. Mais d'où ça vient, du coup, ça, cette façon de faire, si c'est de votre femme, c'est ça?
Je ne pense pas vraiment que c'est ma femme seulement, parce que c'est ce que j'observe un peu dans presque au moins sa famille aussi l'entourage des gens que je connais ici.
D'accord.
Parce que je ne connais pas aussi mal d'Afrique, je connais seulement les Finlandais.
Merci Hubert, on va essayer de vous apporter des éléments de réponse. Raphaël Milkovitch.
Oui, bah, je pense qu'effectivement, le mode éducatif culturellement admis en Occident n'est peut-être pas très concordant avec celui qu'il peut y avoir en Afrique. Et c'est vrai que bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... à tellement vouloir tenir compte de l'enfant, voilà, il en arrive à prendre une place énorme dans les choix qui sont faits le concernant, et du coup, on se demande où est le rôle de l'adulte. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour, j'imagine, ça doit être compliqué pour ce monsieur de garder ce cap en dépit de l'ambiance générale qui vise vraiment à donner de la place à la parole de l'enfant.
Mais alors, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est ça qu'on... Moi, je me pose la question, du coup, parce que...
Bah, disons que je pense que vraiment la clé pour que ça fonctionne, c'est vraiment la cohérence entre les deux parents. Ça, je pense que, bon, même si c'est pas après facile forcément de résister à toutes les pressions sociales qui existent
autour. Un maximum de cohérence.
Parce que l'enfant, lui aussi, se rend compte que ses copains, ça se passe autrement. Donc c'est clair qu'il va en jouer, qu'il aura les arguments pour défendre sa position. Mais que, voilà, si déjà au sein du couple, il y a un relatif accord ou du moins un respect par rapport à la façon de faire de chacun, ça permet aux parents d'être plus légitimes face à l'enfant, parce que l'enfant, il va chercher un peu des moyens de louvoyer, de trouver des alliés à sa cause. Et or là, si les parents font bloc, je pense que c'est beaucoup plus facile après d'imposer une certaine autorité.
Oui, ça fait penser un petit peu à ce concept de l'enfant roi, parce que je sais que dans votre ouvrage, vous proposez justement de comment dirais-je, de vous remettez en cause la relation parent-enfant, justement pour que l'enfant participe davantage à l'éducation. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question du revers ou de la limite, en fait, de jusqu'où ça peut aller. François Poisson.
Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le problème du monsieur. Effectivement, l'enfant, il est capable de voir que les parents fonctionnent différemment. À partir du moment où les parents sont d'accord sur un principe éducatif global, je pense que pour l'enfant, il est très facile pour lui de comprendre que papa, il fonctionne plutôt comme ça, et maman différemment, mais que les deux sont d'accord. Et je pense que c'est surtout ça le plus important. Maintenant, concernant effectivement la place de l'enfant dans les décisions et dans la décision concernant son éducation, c'est effectivement très difficile de poser des limites, puisque on est dans le cadre où on va à la fois écouter l'enfant et tout ce qu'il a à dire, ce qui peut être bien, et prendre en considération sa parole. Et à côté de ça, on va le décharger complètement, finalement, de ses actes. Donc il y a un décalage, effectivement, que l'enfant aussi peut saisir. C'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut, on lui dit rien. Mais en même temps, on écoute sa parole. Et là, ça pose un vrai problème, en fait.
Alors, votre ouvrage, je le rappelle, s'intitule « Parenting, le parent aussi est une personne ». Mais alors, comment vous définissez le parenting? Parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Qu'est-ce que c'est?
Oui, et ben c'est pour ça qu'on a repris le terme anglais. C'est parce qu'en France, en français, on a le terme parentalité, qui est un peu un état de fait. Soit on est parent, soit on ne l'est pas. Alors que le parenting, c'est vraiment le travail de parent qui ne cesse jamais. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment le travail de parent, si on peut dire.
Mais on a même l'impression que c'est un travail avec... c'est sérieux, quoi, avec des objectifs... tel, je ne sais pas, un travail de management. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que les parents sont un peu bouleversés et un peu perdus?
Bah, je pense que c'est un enjeu majeur quand même, le devenir de ses enfants. Je pense que pour la plupart des gens,
bien
c'est
sûr,
vraiment une priorité dans la vie que
non,
de
c'est
réussir
pas,
ça.
C'est pas ce que j'insinuais, hein. Mais je veux dire que peut-être que c'était... j'ai l'impression qu'avant, on disait qu'il fallait juste prendre soin de ses enfants et aujourd'hui, on demande beaucoup aux parents, peut-être, François Poisson.
Alors, on demande beaucoup et on apporte aussi beaucoup de réponses, hein, comme on le disait en début d'émission, avec des, voilà, des concepts, des choses en disant, voilà, il faut faire comme ça, dans telle situation, il faut faire comme ça, etc. Donc, on leur demande beaucoup et puis on leur dit, bah voilà, il faut lire 500 pages de préceptes et dans chaque situation, il y a une réponse. Effectivement, là, ça paraît très compliqué à mettre en œuvre pour les parents. Et finalement, on laisse plus aux parents la liberté d'être ce qu'ils sont vraiment. Et ce qui pose un problème aussi dans l'éducation, c'est que il faut que le parent il soit ce qu'il est pour élever son enfant, pour pouvoir l'élever sur le long terme, qu'il puisse se ressembler à ce qu'il est dans son éducation, parce qu'autrement l'enfant sent très bien le décalage qu'il va y avoir entre le message du parent qui va tirer d'un livre ou autre et ce qu'il ressent vraiment.
Mmh. Oui, quand vous dites ce qu'il est vraiment, vous parlez aussi de l'être humain
bien sûr,
qu'individu, d'où le sous-titre de votre ouvrage, le parent aussi est une personne, parce que c'est vrai qu'on parle de parentalité, de parents déjà comme si c'était une entité, alors il y a déjà un homme et une femme et ça peut être différent, mais aussi en tant que personne, est-ce que c'est pas l'une des clés aussi voilà, de pouvoir être bien en tant que personne aussi, mmh. de pouvoir s'aérer peut-être en dehors de ses enfants pour être un bon parent finalement.
Tout à fait, parce que le bien-être des parents, ça paraît assez évident. Enfin, le bien-être de l'enfant plutôt est indissociable de celui du parent, ça paraît évident comme ça. Mais en même temps, on prône quand même une posture sacrificielle du parent
oui.
qui donne tout à ses enfants.
Mmh.
Et ce qui s'observe
qui
vraiment
s'oublie,
couramment,
hein.
voilà, qui s'oublie, qui, voilà, dès que l'enfant est contrarié, le parent se remet en question, enfin voilà, comme si tout incombait aux parents et comme le disait François, on occulte toute la responsabilité potentielle de l'enfant.
Oui.
Donc le parent qui adopte cette posture sacrificielle à vouloir tout donner à son enfant, mais à ses dépens, quelque part ça va retentir sur la relation négativement, parce que le parent qui n'est pas épanoui dans cette relation, parce que il encaisse trop de choses, il trouvera pas de plaisir à être dans la relation et ça, c'est pas forcément positif mm-hmm. Ni pour le parent ni pour l'enfant.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, je pense que c'est très clair.
Est-ce qu'il faut pas faire aussi peut-être le deuil d'être le parent idéal ? Parce que c'est ça aussi.
Tout à fait. Je pense que déjà, oui, être plus en paix avec soi-même, alors tout en se posant des questions sur la bonne façon de faire, mais dans une certaine mesure, pas non plus tout le temps s'auto-censurer ou s'auto-incriminer, oui.
Ouais.
Oui, culpabiliser tout le temps, en fait. C'est ça aussi le problème.
Ouais. Alors, nous sommes avec Rachid, qui est à Paris, qui a deux filles et qui voulait aussi nous partager son expérience. Bonjour, Rachid.
Bonjour à tous. Oui, je suis en train d'écouter l'émission et je voulais juste intervenir pour dire que ce que je trouve qui manque un peu dans le débat, c'est de définir de mon point de vue l'objectif de l'éducation, en termes simples bien sûr, et je trouve que ça définit le rôle des parents et donc la place du parent et son autonomie. Pour mon expérience personnelle, j'ai donc deux filles, 18 et 14 ans. J'ai toujours essayé de les éduquer en essayant d'être protecteur quand il fallait, mais dans le but de les rendre autonomes, parce que pour moi, le meilleur moyen pour que le parent ait sa place, son jardin secret, sa tranquillité, c'est qu'au fur et à mesure, l'enfant soit le plus autonome possible. Je prends souvent l'exemple, quand je parle avec des amis, en disant que c'est un peu comme une baignoire. Au début, on met l'enfant dans une baignoire, et puis le but, c'est qu'il aille nager dans la mer à la fin, en passant par une piscine et autres. Et je pense que si on arrive à trouver le bon degré de protection, et en même temps de le rendre autonome, au final, on arrive progressivement à retrouver une certaine forme de liberté et à rendre notre enfant à la fois, on va dire, adapté à la société et en même temps, avec la confiance qu'on peut lui avoir en lui.
Merci beaucoup, Rachid, pour votre intervention. Vous voulez ajouter quelque chose à ce sujet, François Poisson?
Disons qu'en fait, oui, ce monsieur anticipe un petit peu ce qu'on allait dire peut-être un petit peu plus tard, parce qu'il y en est question également dans le livre, de rendre l'enfant autonome. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important, d'avoir cette notion-là, de quand on a des enfants, de vouloir qu'ils deviennent autonomes. Maintenant,
oui, la question aussi, c'est... Oui, c'est un peu c'est... le but d'élever un enfant.
Mais les
aussi.
Vraies les questions des parents, c'est comment on fait pour les rendre autonomes?
Oui. C'est
et c'est pas simplement je veux qu'il le soit, mais comment on fait pour qu'ils y arrivent? Donc quel degré de protection, etc. on doit donner? Est-ce que là j'ai mal fait? Enfin, on retombe
surtout que
dans
l'enfant
ce, dans
réagit, c'est-à-dire que l'enfant, on le disait tout à l'heure par exemple avec Hubert, l'enfant aussi a son propre point de vue, ou etc. Raphaël Milkovitch.
Oui, je pense que ce que dit ce monsieur est tout à fait pertinent, c'est que le juste degré de protection va permettre que l'enfant se sente suffisamment en sécurité pour explorer par lui-même le monde et du coup si l'apprivoiser et devenir autonome petit à petit. Mais après, c'est vrai que dans les faits, la nuance entre la protection et la surprotection, voilà, là, souvent c'est l'extérieur qui considère qu'un parent est surprotecteur, pas le parent lui-même. Donc c'est pas toujours évident de savoir quel est ce juste degré, mais effectivement, je pense que, en tout cas dans nos sociétés, l'autonomie est vraiment un des objectifs premiers que visent les parents
pour
leur enfant.
Oui, alors l'émission touche bientôt à sa fin, donc du coup, si vous avez si vous deviez nous délivrer le mot de la fin avec peut-être des clés, des recommandations. Pour aider les parents,
Qu'ils fassent ce en quoi ils croient, tout en étant évidemment bienveillants vis-à-vis de l'enfant. Mais
oui,
ça va de soi.
Donc finalement, ce n'est pas écouter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure dans l'émission, c'est-à-dire que si on est sûr de ce que l'on veut pour son enfant, c'est de ne pas peut-être écouter, mais ne pas prendre en compte ce qu'on peut nous dire à l'extérieur,
disons,
notre famille.
En prendre en compte que dans la mesure où on en est soi-même convaincu.
C'est ça. Oui.
Oui, c'est exactement ça. C'est bien évidemment écouter l'enfant avec la réflexion et le savoir de l'adulte. C'est-à-dire que l'enfant, s'il veut effectivement manger des bonbons en permanence, nous, on sait que c'est pas bon pour lui. L'enfant, lui, le sait pas forcément. Enfin, voilà. Donc, c'est écouter l'enfant, mais avec le recul de l'adulte. Et donc, je pense que c'est être bienveillant que de lui dire non parfois sur certaines choses qu'on sait que c'est pas bon pour lui, quoi.
Oui. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans cette émission consacrée à la parentalité. Avant d'écouter le reportage de Alice Milo, nous allons continuer en musique avec Énergie. Voici Sympa The Great.
With my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Family energy, drank a cup of quarters on my chorus, then I code up. Hey. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Hey. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame. Feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees.
I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. Now serious talk at they talk. Go. No beating anger here speaking. Listen. In this world we deal, members say ya, one day go come when we all go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say.
With all my life,
germination. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, taught us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, no heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If
I was a 7 milliards de voisins, vendredi aujourd'hui, émission consacrée à l'éducation, évidemment. Et nous terminons l'émission avec un reportage au Niger qui compte le taux de natalité le plus élevé au monde, 7 enfants par femme. Mais le pays détient aussi des records en termes de déscolarisation. 1 200 000 enfants sont exclus du système scolaire au Niger, ce qui représente environ 1 enfant sur 6. Pour remédier à ce problème, l'ONG Aide et Action a mis en place des classes passerelles. Depuis la rentrée scolaire, environ 1000 élèves âgés de 9 à 14 ans ont intégré ces écoles de la seconde chance, un programme financé par l'Agence française de développement et soutenu par l'Alliance Sahel. Alice Milo s'est rendue dans une de ces écoles passerelles à Niamey, accompagnée de Moussa Daouda, un des superviseurs du projet.
On se trouve dans l'école primaire de Yantala Ba. Donc là, on est dans l'enceinte de la cour. Vous voyez bien qu'il y a des bâtiments en matériaux définitifs. Il y a aussi des classes paillotes.
En paille, en fait, des, dans la cour. Ouais.
Mais aussi, il y a un centre passerelle ici. Ils ont un effectif de 30 élèves. C'est des enfants de 13 à 14 ans.
Pourquoi avoir décidé d'implanter une classe passerelle dans ce quartier?
C'est en fait un quartier qui est situé au bord du fleuve. Les petits-enfants, ils s'adonnent aux activités de pêche et de maraîchage. Ils vont quand même aider leurs parents dans ces activités-là. Ce qui fait que effectivement le phénomène de déscolarisation est très important ici.
Donc ça, c'est la classe passerelle?
Oui, on va aller... c'est la classe passerelle. On se dirige, il y a un animateur plus 30 enfants, donc 30 apprenants, parmi lesquels on a 27 déscolarisés et 3 non scolarisés.
Wora, Irwan Biris Fonogara. Oh, voilà.
Tu es un des élèves de la classe passerelle, c'est ça? Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles?
Je m'appelle Abdoulaye Saka.
Tu as quel âge?
13 ans.
Depuis le mois d'octobre, tu vas dans cette salle de classe. Qu'est-ce que tu apprends ici dans la classe passerelle?
J'apprends à lire et à écrire.
Est-ce que tu es content d'avoir intégré cette classe passerelle?
Oui, parce que je vois des gens travailler dans des bureaux, circuler dans de belles voitures. Et moi, si je ne vais pas à l'école, tôt ou tard, je vais me retrouver à la rue. Et ça peut me conduire à devenir un voleur, un délinquant. Donc je suis vraiment content d'avoir été récupéré pour continuer mes études.
C'est la première fois que tu vas à l'école?
Oui, je suis arrivée à Niamey l'été 2016. J'avais 11 ans. Avant, j'habitais à Toroli. C'est mon village. Il y a la pauvreté là-bas. Mes parents sont éleveurs et moi je les aidais pour le pâturage des animaux. Je gardais des chèvres et des moutons. Un jour, avec ma famille, on est venu à Niamey pour assister à un mariage et visiter mes grands-parents. Je suis allée faire un tour au marché avec quelques amis. J'ai vu qu'ils faisaient des petits boulots pour gagner de l'argent. Je fais comme eux. J'ai eu quelques pièces. Puis je suis rentrée et j'ai dit à mes parents qu'ils pouvaient rentrer sans moi, que j'allais rester ici chez mes grands-parents. Et à partir de ce jour-là, j'allais chaque matin au marché pour chercher de l'argent. Et c'est comme ça que j'ai dépassé l'âge d'aller à l'école.
Avec l'argent que tu gagnais au marché, tu t'achetais quoi en fait? Il servait à quoi cet argent?
Avec l'argent, j'achetais des vêtements pour mes frères et mes sœurs. J'achetais aussi de quoi nourrir ma famille de temps en temps.
Quand tu es arrivée à Niamey, tu voyais les enfants qui allaient le matin à l'école. Est-ce que ça te donnait envie? Est-ce que tu avais l'impression d'être différent?
Ça me faisait mal. Même parfois, je pleurais de voir les autres aller à l'école. Pourquoi pas moi? Quand je rentrais chez moi, j'étais tout seul. Je devais attendre que les autres enfants rentrent de l'école pour que l'on puisse discuter et jouer ensemble. Ça me faisait très mal. En plus, j'avais honte qu'on me demande d'écrire ou de lire quelque chose. J'étais incapable de lire un numéro de téléphone.
Personne dans ta famille t'a jamais encouragé à aller à l'école ?
Non, c'était une vocation personnelle. Ma famille ne m'a jamais encouragée parce qu'elle avait besoin de moi pour le pâturage. Maintenant que j'ai compris l'importance de l'école, j'ai demandé à ma famille d'inscrire aussi mes frères et sœurs qui sont toujours au village. Heureusement que ces écoles de la seconde chance existent parce que moi, quand j'ai voulu m'inscrire à l'école primaire, ce n'était pas possible car j'avais atteint l'âge du collège. Pour le moment, je n'ai pas complètement confiance en moi. Mais je crois que grâce à cette classe passerelle, j'y arriverai.
Bonjour Aïchatou.
Bonjour Sharifa.
Tu es née où ?
Je suis née à Donso.
Tu es dans quel quartier ?
Je suis dans le quartier Yantala.
Très bien, allez-y à vos places. Anas Adamou et Shamsi Adibullah Issa.
Quand on dit classe passerelle, c'est il y a les enfants de 9 à 12 ans qui suivent un cursus très accéléré de scolarisation au bout de 10 mois, 9 à 10 mois. L'enfant va avoir les compétences attendues d'un enfant qui a passé une scolarité de 4 ans au primaire. Donc, il rejoint les enfants de la classe de CE2 dans l'enseignement primaire.
Comment c'est possible en 10 mois de rattraper un retard de 3 ou 4 ans de scolarisation ?
Les 3 premiers mois, l'enseignement se fait en langue locale, en Zarma, en Aoussa, en Fulfulde ou en Kanuri.
Contrairement à l'école traditionnelle où l'enseignement se fait en français.
Et donc, l'hypothèse qui est faite, c'est que les enfants vont acquérir rapidement les notions de base dans leur langue locale plus facilement que si ce n'était en français ou dans une autre langue étrangère. Donc ils savent lire, ils savent écrire, ils savent compter, ils savent calculer en 3 mois dans leur langue locale. Et donc les 7 mois autres de l'année sont consacrés à l'enseignement en français.
Comment vous avez fait pour convaincre les parents ?
Oui, ce n'est pas un pari gagné. Les parents font des calculs stratégiques et se disent « qu'est-ce que j'ai à gagner en laissant l'enfant à la maison, le maintenant à la maison ? Qu'est-ce que j'ai à perdre si je l'envoyais à l'école ?» C'est un dialogue permanent qu'il faut avoir avec les parents. Ils les convaincent qu'en les envoyant à l'école, c'est un investissement long, mais ils finiront toujours par gagner. On leur donne des exemples concrets en tant qu'agriculteur ou éleveur. L'éducation, si tu es éduqué, si tu es allé à l'école, ça te permet de mieux gérer ton patrimoine. Ça permet de se rendre compte qu'effectivement, il y a un calendrier pour les vaccinations, de faire son compte d'exploitation, parce que souvent, on pense que le bétail est là, à vie, mais on ne pense pas que le bétail vieillit, il faut le remplacer. Et donc, toute cette culture de gestion, ça prend aussi à travers l'école, à travers l'éducation.
Est-ce que par ailleurs, un autre enjeu de la scolarisation est lié au contexte d'insécurité dans lequel vit le Niger aujourd'hui, à savoir que toutes vos frontières sont actuellement cernées par la menace terroriste et que, a fortiori, tous les élèves sont potentiellement des proies pour des recruteurs, notamment les élèves qui sont déscolarisés ?
Oui, un enfant qui n'est pas à l'école, il est une proie facile, il est vulnérable. Un enfant qui est hors système éducatif, on ne contrôle pas ses déplacements, on ne contrôle pas ses interactions avec les autres acteurs de la société, qu'ils soient animés de bonnes intentions ou pas, on ne peut pas contrôler. La preuve, les enfants qui sont recrutés, c'est ceux-là qui sont justement en dehors de l'école qui sont recrutés, parce qu'ils sont facilement malléables, on peut les modeler, on peut les endoctriner facilement, qui peuvent les faire miroiter beaucoup de choses. Et donc, nous avons fait le pari que en faisant la promotion des passerelles éducatives au Niger, on va contribuer tant soit peu à réduire le risque d'embrigadement des enfants. Voilà, en effet, les classes passerelles sont utiles pour le développement du pays et pour la lutte contre le terrorisme.
C'était Tchabéré, directeur d'aide et action au Niger. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins de m'avoir accompagné pendant ces 2 jours. Sigrid Azerwal, Delphine de Dianos, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine, et nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Lundi, 7 milliards de voisins, retour d'Emmanuel Bastide qui abordera la question de la sécurité des femmes dans la rue. À bientôt et prenez soin de vous.